Begin your transmission now.
Morey. Live.
Avec Dominique Morey.
Oui, monsieur.
Live.
Radio X.
Pierre Poilievre a fait plusieurs messages très pertinents au cours des dernières minutes. Il y a évidemment des tweets qui ont été faits concernant le pipeline, l'urgence du pipeline. Mettre de la pression sur Carney pour qu'il se réveille une fois pour toutes. Grosse lettre également publiée dans le National Post de ce matin. C'est une lettre écrite par Pierre Poilievre. Special to National Post. Carney must approve a pipeline immediately. Est-ce qu'il est là, M. Poilievre? Oui. Pierre Poilievre, le chef de l'opposition et futur premier ministre du Canada. Bonjour, Pierre Poilievre. Comment ça va?
Bon matin et bonne année.
Bonne année, absolument. C'est une bonne lettre qui a un bon punch ce matin. National Post s'est publié en une et je traduis le titre. Pierre Poilievre doit absolument approuver un pipeline de manière urgente. Ça donne bien parce qu'on a parlé avec un spécialiste du pétrole un peu plus tôt dans l'émission qui vous donne absolument raison. Il faut aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, M. Poilievre?
Se débarrasser du chemin. Honnêtement, une telle pipeline est massivement rentable sans subvention du gouvernement. Donc, on n'a pas besoin d'un grand chèque d'Ottawa. On n'a pas besoin des réunions. On n'a pas besoin de M. Carney, des grands conseils de M. Carney. Il doit donner un permis pour permettre au secteur privé de bâtir une pipeline entre Hardisty, Alberta, et ou bien Kitimat ou Prince Rupert pour pouvoir acheminer à peu près entre 1 et 2 millions de barils par jour vers l'Asie. On a les travailleurs. Il y a des centaines de milliards d'investissements privés qui sont prêts à y aller. On manque seulement un permis du gouvernement fédéral qui a la seule juridiction constitutionnelle pour l'approuver ou pour le bloquer. Donc, il faut faire une chose, c'est que le gouvernement libéral se débarrasse du chemin.
Quelques questions là-dessus. Les gens peuvent se dire, les gens qui suivent l'actualité, et puis je m'inclus là-dedans, il me semble que c'est entendu avec Daniel Smith, et Daniel Smith avait l'air bien contente. Qu'est-ce qu'il y a de pas réglé dans la tête de plusieurs personnes? C'est réglé. Carney a donné la main à Daniel Smith. Qu'est-ce qu'il y a de pas réglé et qu'est-ce qu'on doit régler alors?
Il n'y a pas une pipeline. Il n'y a pas une pipeline approuvée. Il n'y a même pas un engagement qu'il va en y avoir. Dans l'entente entre Mme Smith et M. Carney, c'est un engagement qu'après qu'elle soumet une proposition pour une pipeline, M. Carney va le référer à une nouvelle bureaucratie qu'il vient de créer, qui n'a même pas des règles établies, pour 2 ans de considération. Après quoi, il pourrait y avoir une décision, oui ou non. C'est ridicule. On n'a pas 2 ans pour gaspiller du temps encore. M. Carney devrait prendre une décision 2 mois après avoir reçu l'application spécifique de Mme Smith. Elle est en train de trouver un tracé, de compléter des consultations avec les Premières Nations, et elle va bientôt, j'estime, le mois de mai et le mois de juillet, déposer une application. Ce que j'ai revendiqué aujourd'hui, c'est que le gouvernement libéral devrait dire oui ou non 60 jours plus tard. Et moi, je pense que ça devrait être un oui.
Est-ce que le BC peut bloquer ça? Je suis en train de lire une dépêche dans le CD News. David Eby qui dit « He would support building a new oil refinery in Canada over a new pipeline carrying oil bound for Asia. » Autrement dit, lui préfère une raffinerie plutôt que... Il n'y en veut pas de pipeline. Si vous étiez premier ministre, qu'est-ce que vous feriez avec lui d'un jambe? Qu'est-ce que vous feriez?
Je l'ignorais. Il n'a aucun pouvoir. La section 92 de la Constitution canadienne est explicite. Les premiers ministres provinciaux n'ont aucun pouvoir pour empêcher un projet qui traverse les frontières interprovinciales. Donc, il n'a aucune importance dans cette discussion.
Et on peut alléguer l'urgence, M. Poilievre, aussi. C'est une urgence nationale. Tu sais, c'est pas n'importe quel projet, là.
les cours ont déjà dit que les premiers ministres provinciaux ni les chefs autochtones ont un veto. Ça n'existe pas. Donc, c'est une décision du gouvernement fédéral. Et maintenant, on a une urgence nationale parce que le Venezuela va commencer encore à vendre son pétrole aux États-Unis. Écoutez, ce n'est pas juste un autre pays qui fournit le pétrole. C'est le pétrole lourd. C'est exactement le produit qui provient de l'Ouest canadien qui va aller dans exactement les mêmes raffineries très spécialisées aux États-Unis. Nous dépendons trop sur ces raffineries. L'instant qu'eux autres ont un autre 2 millions de barils de Venezuela, ils vont simplement nous regarder et dire « Hey, on va vous payer 15 ou 20 $ de moins pour chaque baril parce qu'on a un autre fournisseur qui offre exactement le même produit. » Donc, nous allons être frappés massivement par le Venezuela dans les prochaines 2-3 ans. Il faut agir rapidement. Ça peut ajouter... Une pipeline vers la Pacifique peut nous donner 30 milliards de dollars de revenus à notre PIB chaque année. Ça, c'est 1 400 $ pour chaque famille canadienne. Oui, les Québécois vont en bénéficier parce que ils vont fournir... La péréquation, les transferts en santé sont financés par les taxes qui vont être reçues à Ottawa. Il y a aussi un dollar qui sera plus fort quand on vend plus ailleurs au monde. Ça va être, juste pour mettre ça en perspective, 30 milliards de dollars en augmentation, ce serait la plus grande augmentation dans nos exportations outre-mer dans l'histoire du pays. Et ça va augmenter le dollar canadien, donc le pouvoir d'achat des Québécois pour la nourriture, pour l'essence, pour les maisons, ça devient plus fort.
Vous avez parlé d'ailleurs du pouvoir d'achat. Vous avez fait un tweet là-dessus. Vous êtes en forme en ce début d'année. Il y a beaucoup de choses qui... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui favorisent le Parti conservateur, pour vrai. Puis c'est un gouvernement minoritaire, répétons-le. Donc, on peut aller en élection à peu près n'importe quand. Quand vous avez fait un tweet il y a 14 heures de ça, on appelle ça un tweet, même si c'est sur X, là, les étudiants canadiens qui ont de la misère à manger 3 fois par jour, l'inflation qui augmente de 2,5 fois plus vite au Canada par rapport aux États-Unis, il y a un quart des étudiants, they are skipping meals, et vous avez les banques alimentaires qui ont doublé, on le sait à Québec, on l'a vu, il y a... Puis là, on a un PM qui s'en va faire des câlins à Madame du Danemark et qui donne de l'argent à l'Ukraine, complètement défocusé. C'est inquiétant de voir M. Carney, là, comme citoyen canadien. Là.
Surtout quand un grand nombre de Canadiens ont de misère à acheter leur épicerie. Ils coupent dans leur repas. Nos jeunes ne peuvent pas acheter des maisons. Et on a un gouvernement à Ottawa qui ne fait que gonfler le coût de la vie avec les déficits massifs. En fait, le déficit de M. Carney est 2 fois plus grand que celui de Justin Trudeau. Ça gonfle l'inflation pour la classe ouvrière et pour nos aînés. Donc, il nous faut un gouvernement qui va réduire les déficits, l'inflation, les taxes, pour permettre aux gens travaillant de garder plus de leur argent et augmenter leur pouvoir d'achat. Donc, c'est ça ma priorité principale, d'être chez nous, de me concentrer sur le chez nous.
Dans le congrès du Parti conservateur, il faut que les conservateurs fassent front commun derrière vous, là. Il faut s'unir derrière vous, là. Là, on voit que ce gouvernement-là est fragilisé. Vous attendez un gros taux d'appui. C'est quand même un vote de confiance. Le contexte est quand même bon pour vous, là.
Oui, il faut être unis parce que les Canadiens ont besoin d'un alternatif, un alternatif qui augmentera le pouvoir d'achat, réduire le pouvoir de l'État, mettrait les criminels en prison et mettrait le Canada d'abord dans les affaires mondiales. Donc, nous sommes le seul parti qui va le faire et j'ai besoin d'une unification du Parti conservateur pour livrer cet avantage aux Canadiens.
Et dernière question, je me permets de la poser parce que j'avais rencontré Anaïda, votre épouse, puis j'avais posé la question sur le Venezuela. Je sais que pour l'instant, elle ne fait pas de sortie publique. Et on la comprend avec toute la merde et toutes les gangs qui sont dans les rues de Caracas. Il y a une situation qui est très dangereuse. Mais quand même, au plan personnel, on a senti que ça vous touchait énormément. Vous avez été le premier chef politique à sortir pour saluer Donald Trump, Ça vous touche personnellement, là, cette histoire-là, quand même. Anaïda, qui, rappelons-le, pour les gens qui ne le savent pas, vient du Venezuela, sa famille est encore là-bas. Je veux vous entendre là-dessus, sur comment vous vivez ça en famille, quand même, M. Poiliev.
Oui, c'était un moment très émotif pour elle. Sa famille a fui le Venezuela. Elle a plusieurs membres de famille qui sont toujours là. Sa famille a des propriétés qui sont toujours là, mais qui ont été volées par l'État et par les communistes. Il faut reconnaître que les communistes ont totalement détruit le pays le plus riche dans les Amériques, le Venezuela, et l'a rendu le pays le plus pauvre. Pour toute sa famille, c'était un moment très émotionnel. Et elle est un grand supporter de Maria Corina Machado, la dame qui a été reconnue avec le prix Nobel, une femme qui se bat pour la liberté depuis presque 20 ans. Elle a effectivement, avec M. González, a gagné les élections à deux reprises. Et on pense que qu'elle et lui devraient être reconnus comme étant l'administration présidentielle choisie par les Vénézuéliens. J'ajouterais une chose, et que Anna le dirait si elle était ici. Elle est une Canadienne d'abord. Elle est au Canada depuis à peu près 30 ans. Et elle adore le Canada. Et c'est une Québécoise qui met son pays présent en premier.
Et est-ce que c'est de l'optimisme davantage ou de l'inquiétude, le sentiment ressenti actuellement?
Un peu les deux, parce que... Oui. On veut pas que les chavistas restent au pouvoir. On veut que ce soit les élus. Et on veut qu'il y ait des élections au Venezuela aussitôt que possible pour remettre les Vénézuéliens dans le contrôle de leur avenir. Et ce serait une excellente chose pour eux. C'est pour ça qu'elles se battent en même temps que supporter le Canada.
Excellent début d'année, bravo. Le contexte est bon, puis votre discours est très bon. Bravo, félicitations. On va souhaiter une belle année, Pierre Poiliev. Merci beaucoup.
Merci, M. Bermoret. Bonne année.
Merci, bye-bye. 9h27, quelque chose à rajouter, mon légionnaire?
Non, c'est très bon, tout simplement.
Le discours est bon,
oui.
Le contexte est bon.
Bien, ça a été une de mes premières réactions. Je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche que je l'ai fait. Probablement plus dimanche, parce que c'est là que je me suis plongé encore plus, quoique samedi aussi, là, dans tout ce qui se passait au Venezuela. Ma réaction, ça a été des pipelines, puis maintenant, là.
Oui!
Au plus sacrant, là.
Pipe, baby pipe.
Oui.
Hey, prenez pas son mot en passant. Ça
non,
se
non.
traduit pas, là.
Non.
Mais tu sais, je sais qu'à maison, le soir, vous allez faire des farces avec ça avec votre blonde, là. Mais c'est pas de ça dont on parle, là.
Mais
il y a raison. Mais là-dessus, moi, j'ai aimé la phrase suivante qui se mêle de ces maudites affaires. Le gauchiste de BC.
Ouais.
On pense, c'est une urgence, il faut se développer. Il faut arrêter à un moment donné de s'enfarger des fleurs du tapis. Gna, 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 il n'est pas d'accord et tout ça. L'unanimité n'est pas de ce monde. Là, on est dans un cas d'urgence. Là.
La seule chose, par exemple, je sais que ça va être tout de même, si c'est bon pour BC, ça peut être bon de l'autre côté aussi. Fait que même si le gouvernement du Québec serait contre un pipeline qui passerait au Québec, ben là, il faudrait on pourrait l'imposer.
Je suis d'accord avec ça.
Puis je pense que les Canadiens, les Québécois sont pas aussi, là.
Aussi, absolument. On va à la pause, mon cher.
Oui.
Et on s'en va en France. Le dossier développé par le chum Max hier, on fait une suite à ça. On va jaser directement avec la source, en fait, celui qui a attaché le grelot, comme on dit en québécois, Johan Power. Et qui est un gars d'extrême droite. Oh, c'est très dangereux. Faites bien, bien attention, là. L'extrême droite est en onde en revenant.
Toute l'équipe de Morelive. De retour dans un instant.
Live.
Oui, monsieur.
Radio X.